Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois depuis 20 ans, l'Algérie se réveille sans Abdelaziz Bouteflika au pouvoir. Le président a présenté sa démission hier, poussée vers la sortie par l'armée.
Et quel rôle vont jouer les militaires pendant l'intérim, assuré pendant 3 mois par l'un des proches d'Abdelaziz Bouteflika à la tête du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat? Eh bien, c'est ce que l'on va tenter de comprendre dans un instant.
Cherche soutien désespérément pour parvenir à boucler son Brexit. La première ministre britannique Theresa May a annoncé hier soir son intention de réclamer aux 27 un nouveau report de la sortie de l'UE. Elle se tourne également vers l'opposition travailliste pour tenter de sortir de l'impasse politique. À la une en France, la concertation sur la réforme des retraites de plus en plus minée. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, menace de démissionner si les engagements du gouvernement ne sont pas tenus. Et puis le grand débat se poursuit aujourd'hui en Bretagne, demain en Corse avec un déplacement d'Emmanuel Macron.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on reparle du Brexit. Et oui, c'est un feuilleton à succès, enfin un drôle de succès. Justement, on se demandera si la démocratie britannique est aujourd'hui dans l'impasse. On posera la question à Catherine Marshall. Elle est professeure de civilisation britannique à l'université de Cergy-Pontoise.
Il a finalement cédé face à la pression de la rue, mais surtout de l'armée. Abdelaziz Bouteflika a démissionné hier de la présidence en Algérie, bien avant donc ce qui avait été annoncé lundi, à savoir un départ avant le 28 avril, fin initialement prévue de son 4e mandat présidentiel. Pour acter ce départ, après 20 années passées à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika est apparu à la télévision vers 22h30. Visage blême, les yeux exorbités, l'homme de 82 ans, affaibli par un AVC, n'est plus que l'ombre de lui-même, bien loin du puissant et volubile Raïs. L'Algérie se réveille donc ce matin sans Abdelaziz Bouteflika pour la première fois en 20 ans. Commence une période d'intérim avec de nouvelles élections à organiser d'ici 90 jours. Pas question de se laisser confisquer la victoire par l'armée ou le reste du camp Bouteflika. C'est ce qu'expliquaient hier soir les manifestants que Kaïna Nazir a pu rencontrer à Alger, des habitants partagés entre joie et vigilance.
En voiture, perché sur un lampadaire ou bien sur le trottoir, ils laissent éclater leur joie, toujours avec leur accessoire fétiche, le drapeau algérien qui recouvre le dos de sa mère.
Le président s'en va et ça veut dire qu'ils vont tous partir aussi. On est heureux parce que là, ça fait longtemps qu'on se retient. Peut-être que maintenant notre vie va changer, je l'espère de tout cœur.
Moumen aussi est plein d'espoir.
Je ressens des sentiments que j'ai ressentis quand j'étais petit, au moment de l'indépendance. Et voilà, je revis à peu près les mêmes moments de bonheur. Et voilà, on respire un petit peu, donc j'espère que ça ira bien pour le jeune.
Abdelaziz Bouteflika cède face à la pression de l'armée. Un peu plus tôt dans la soirée, Gaïd Salah, le chef d'état-major, exigeait son départ immédiat. Il n'avait alors de toute façon plus le choix, analyse Amine.
Il avait certainement un pistolet sur la tempe, là. C'était ou il démissionne ce soir, ou il y aurait un coup d'état ce soir, c'était clair.
La joie n'anesthésie pas la vigilance des Algériens. Ils le répètent tous ici, Bouteflika ne doit pas partir seul et la transition doit se faire avec le peuple.
Il y a un grand chantier qui nous attend là derrière. C'est qui va prendre la relève? C'est qui va assurer la transition? Est-ce que ça va être l'armée, un état civil, etc. Le combat continue, c'est pas encore la victoire finale. On a réussi à faire plier Bouteflika et j'espère que c'est nous quand même. On a du mérite là-dedans.
Et ils se redonnent rendez-vous tous ici vendredi pour manifester encore une fois.
Les Algériens qui ne comptent pas baisser leur garde, on l'entend. La démission hier du président Bouteflika ne doit pas cacher le maintien de tous les hommes du régime. Alors que va-t-il se passer maintenant? Qui va contrôler la transition et l'après Bouteflika? C'est ce que nous allons voir avec vous, Thibaut Cavaillès. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Les Algériens se méfient tout d'abord du rôle que l'armée peut jouer.
Oui, cette armée qui a finalement transformé ce que la rue algérienne avait entamé, poussant donc le président à la démission. L'armée qui a toujours joué un rôle majeur à la tête de l'Algérie. L'armée dont sont issus les derniers présidents. Président Bouteflika, mais avant lui Lamine Zeroual, Chadli Benjedid ou plus loin encore Houari Boumediene. Donc l'armée qui décide finalement de beaucoup de choses en Algérie et dans cette dernière crise également, elle aura eu le dernier mot sur le clan Bouteflika. De quelle manière? Eh bien en se plaçant au moins en apparence du côté du peuple. À ce niveau de pouvoir, la fidélité n'est pas forcément une qualité. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est un proche de Bouteflika. Il lui doit beaucoup. Il y a 15 ans, alors qu'il devait partir à la retraite, il a été rattrapé par Bouteflika qui le nommait chef d'état-major. Salah Bouchard, 79 ans, qui au début de ce dernier mouvement de protestation, le 22 février, accusait les manifestants de vouloir ramener l'Algérie aux années de guerre civile, et puis qui finalement, mardi, dénonçait, je cite, « la sournoiserie de certains individus à la tête du pays », l'armée donc qui continue à décider de la destinée de l'Algérie, ce que ne valident plus du tout les Algériens.
Et au-delà de l'armée, Thibault, le clan Bouteflika n'a pas dit son dernier mot, il va tenter de se maintenir au pouvoir, notamment pendant la période de transition d'ici la prochaine élection présidentielle.
Période de 90 jours normalement, c'est ce que dit l'article 102 de la Constitution sur la démission d'un président. C'est le troisième d'ailleurs depuis l'indépendance de l'Algérie, troisième qui démissionne. C'est le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat français, qui devient chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, 76 ans. Il a 3 mois donc pour organiser des élections. Le gouvernement nommé dimanche dernier reste lui en place et c'est bien là le problème, Catherine. Non seulement Ben Salah, ce président du Conseil de la Nation, est un proche de Bouteflika, mais également le gouvernement, le nouveau, est composé de caciques du régime, dont le général Salah. Et ça, les Algériens ont déjà dit qu'ils ne l'acceptaient pas plus de représentants du système. La transition risque donc d'être tendue entre Algériens, armée et clan Bouteflika. Le Raïs, qui même s'il n'est plus là, a eu 20 ans, pendant 20 ans, le temps d'instiller sa puissante aura dans les fauteuils du pouvoir.
Thibault Cavaillès, merci pour ces explications sur l'après Bouteflika, lui qui a été ministre dès l'indépendance en 62, a symbolisé une classe politique qui ne se renouvelait pas et dont les Algériens ne veulent plus. Abdelaziz Bouteflika, une vie au pouvoir, c'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr, photos et vidéos à la clé. La peine de mort par lapidation ou coup de fouet pour punir l'homosexualité ou l'adultère, c'est le nouveau code pénal inspiré de la charia, la loi islamique, qui entre en vigueur aujourd'hui au sultanat de Brunei, en Asie du Sud-Est. Je veux voir les enseignements de l'islam dans ce pays se renforcer, déclare ce matin le sultan, qui fait donc fi de l'indignation mondiale des Nations Unies à certaines personnalités comme l'acteur George Clooney et le chanteur Elton John, qui appellent au boycott des hôtels de luxe possédés par Brunei, état pétrolier, des hôtels de luxe dont le Plaza Athénée ou le Meurice à Paris. Un médecin militaire français a été tué hier au Mali. Une bombe a explosé au passage de son véhicule blindé alors qu'il participait à une opération de lutte contre les groupes armés terroristes dans la région du Gourma, près de la frontière avec le Burkina Faso. Cet officier est le 24e militaire français mort au Mali depuis le début de l'opération Serval en 2013. Le Mali, en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires, avec des peuls souvent pris pour cible. On y revient avec le reportage de la rédaction à 7h24. Nous sommes le 3 avril et toujours pas de Brexit à l'horizon. Après 7 heures de réunion de crise du gouvernement britannique hier soir, la première ministre Theresa May a finalement demandé un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un report le plus court possible, le temps de sortir de l'impasse politique à Londres, car faute d'obtenir le soutien des ministres et des parlementaires de son camp conservateur, Theresa May se tourne désormais vers l'opposition travailliste. Antoine Gignot.
Fragilisée, contestée dans son propre parti, Theresa May n'a en réalité plus vraiment le choix. Si elle veut réunir une majorité de députés derrière elle, elle a désespérément besoin du soutien des travaillistes.
Ce débat, ces divisions ne peuvent pas continuer plus longtemps. Je propose qu'on s'assoie avec le chef de l'opposition et qu'on essaie de se mettre d'accord sur une solution qui nous permette de quitter l'Union européenne en signant un accord.
Reste à savoir de quel accord on parle. Car à gauche, Jeremy Corbyn se dit ravi à l'idée de rencontrer la Première Ministre, mais il continue de défendre l'idée d'un Brexit en douceur avec le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière. Un scénario à l'opposé de ce que voulait jusqu'ici le gouvernement, s'insurge Boris Johnson, ancien ministre.
Si Corbyn obtient ce qu'il veut, nous resterons dans l'union douanière. Le Brexit est en train de devenir tellement édulcoré qu'il va finir par se désintégrer.
Et la réaction des unionistes irlandais, les anciens alliés de Theresa May, est encore plus cinglante. Après l'avoir diabolisé pendant 4 ans, le parti conservateur sous-traite le Brexit à Jeremy Corbyn. Négociation lamentable.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu à la une. En France, la concertation sur la réforme des retraites de plus en plus minée.
Après la CFDT et Force ouvrière, c'est Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, qui ne supporterait plus les appels de plusieurs ministres en faveur d'un allongement de l'âge de départ à la retraite. Selon le Canard enchaîné à lire ce matin, Jean-Paul Delevoye menace de démissionner. On y revient dans le journal de 7h30. Un hémicycle bien clairsemé hier soir, le grand débat n'a pas fait le plein. plein à l'Assemblée nationale, même pour parler fiscalité, peut-être à cause de l'absence de vote sur les thèmes lancés par Emmanuel Macron. Le grand débat qui se poursuit aujourd'hui avec le déplacement du chef de l'État en Bretagne aujourd'hui et demain en Corse pour boucler une concertation marathon entamée le 15 janvier dernier en Normandie. Mais entre ces deux derniers déplacements, en Bretagne puis en Corse, l'ambiance ne sera pas franchement la même. Les Corses sont bien plus sceptiques que les Bretons, Rosalie Lafarge.
Le président approche des 100 heures de débat et toujours pas de réponse à l'horizon. L'association des maires de Bretagne attend donc Emmanuel Macron ce matin avec tout un tas d'idées pour satisfaire les attentes des citoyens comme des élus. Dominique Cap est le président des maires bretons.
Quand on a vu les premiers débats avec les maires, c'était surtout des plaintes qu'il y avait là. On a un état des lieux de tous les maires de Bretagne. Une somme énorme d'informations. Donc voilà, on va lui faire nos propositions. Après, on verra. Si nos propositions ne sont pas écoutées, on en tirera les conséquences. Mais voilà, on a bon espoir. Notre objectif étant d'être très positif et d'être en mode on regarde vers devant, on regarde vers l'avenir et on innove et on propose.
En Corse, l'ambiance est tout autre. Les dirigeants nationalistes de l'île ne participeront pas au débat prévu demain à Cozzano. Ils dénoncent un mépris parisien du projet pour lequel ils ont été élus. Pour Jean-Guy Talamoni, le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, les conditions ne sont pas réunies pour un débat serein.
C'est pas un débat d'ailleurs. Hein. La manifestation qui est organisée à Cozzano, c'est finalement un show. Il n'est pas possible dans un tel cadre d'avoir un dialogue sur les points qui constituent un projet pour lequel nous avons été mandatés. Il ne s'agit pas d'une invitation pour parler de cela, pas du tout. Nous sommes ouverts au dialogue, et ce dialogue, il faut l'organiser de façon plus loyale et plus sérieuse que ce qui est prévu à Cozzano.
La coalition nationaliste appelle à une demi-journée île morte demain pendant la visite présidentielle, mais dans le calme. Cette semaine, deux tentatives d'attentats ont été déjouées en Corse. Des explosifs ont été découverts devant deux bâtiments des finances publiques à Bastia.
L'heure du choix a sonné pour les élèves de terminale. Avant minuit ce soir, ils doivent valider sur la plateforme Parcoursup leur souhait de formation pour le supérieur l'an prochain. Si certains lycéens craignent de ne pas obtenir la formation de leur choix, le gouvernement, lui, se veut rassurant, Hakim Kasmi.
Au ministère, on dit avoir tiré les leçons du passé. Cette année, la priorité est donnée à l'information avec une carte interactive des formations et de leur capacité d'accueil et de leur taux de sélectivité. Avec également une période d'inscription raccourcie au 19 juillet afin que les bacheliers puissent partir en vacances l'esprit tranquille. Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
On est au 15 mai, vous n'avez pas eu de proposition, mais vous pouvez voir en fonction de votre rang si vous avez une probabilité ou pas d'avoir une proposition. Je crois que ça va rassurer certains élèves qui s'estimaient être dans le flou. Vous êtes très loin dans une liste d'attente et vous apercevez que le rang du dernier appelé, il est bien inférieur à votre rang. Il y a un moment donné, ça sert à rien de garder jusqu'au bout des vœux en attente sur lesquels vous n'aurez pas de proposition.
Plus de transparence donc, pourtant certains lycéens restent inquiets. Car en plus des attendus, dans les filières sous tension, certaines universités auraient recours à des algorithmes. Faux, répond Guillaume Gelet, responsable formation à la conférence des présidents d'université et président de l'université Reims-Champagne-Ardennes.
L'algorithme, ça signifie que c'est une machine. Alors que dans ce processus de classification des vœux des lycéens, il y a des personnes. Néanmoins, il y a des outils qui sont des outils d'aide à la décision des jurys dans Parcoursup. Au travers d'un certain nombre d'indicateurs, dont les notes, donc des lycéens, donc sont paramétrés pour faciliter le travail de ce jury, c'est-à-dire de ces hommes et ces femmes qui étudient les dossiers des lycéens.
Enfin, pour donner plus de chances aux étudiants, il n'y aura plus de sectorisation, les lycéens ne seront plus cantonnés aux universités de leur académie, et la mobilité géographique sera également encouragée avec des aides qui pourront aller jusqu'à 1000 euros.
Le temps de ce mercredi 3 avril, pluvieux et plus frais qu'hier. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 2 degrés en Bretagne et en Auvergne. Comptez de 3 à 6 en général sur le reste du pays jusqu'à 9 près de la Méditerranée.